professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment la comptabilité, qui a obligation de rendre des comptes, s'avère-t-elle un mode d'accréditation d'une vérité par l'image? Comment peut-elle conférer une vérité légale au nombre? Et comment a-t-elle été la première technique à avoir fait de la monnaie un étalon de mesure universel? Quel rôle ont joué les entreprises pour instaurer cette première forme de gouvernance par les nombres? En quoi la statistique, cet autre mode de quantification, peut-il être le miroir du prince quand la comptabilité est celui du marchand? Nous voici face aux instruments de mesure de richesse, de ressources et de population. Alain Supiot, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, poursuit son questionnement du passage du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres. Il présente aujourd'hui, sous l'angle juridique et dans une perspective historique, l'essor des usages normatifs de la quantification, de la comptabilité à la statistique. Quel est l'apport à partir du Moyen-Âge de l'invention de la comptabilité en partie double? Comment a-t-elle étendu l'empire du calcul, selon la formule du juriste, spécialiste du droit du travail, à des entités qui lui ont été antérieurement étrangères, jouant sur les mouvements et les temporalités? Comment la statistique a-t-elle fait émerger pour sa part une normalité induite de l'observation des faits, contribuant elle aussi à l'hybridation du droit et de la quantification? Alain Supiot note dans sa présentation pour le Collège de France, après avoir mis en valeur l'exemple de l'impact des études statistiques sur la mortalité pour mesurer les écarts liés à la richesse ou aux conditions de travail, que notre droit social est de ce point de vue la première manifestation de grande ampleur d'une indexation de la loi sur des distinctions sociales révélées par la quantification. Cela posé, il souligne à l'inverse les dérives liées à l'utilisation des statistiques dans la biologie raciale et la mise en place de législations eugénistes dans de nombreux pays. Les usages normatifs de quantification ouvrent bien des perspectives, tandis que le caractère universel et immédiat des chiffres arabes ouvre celle du rêve babélien d'une langue commune à tous les hommes. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Alain Supiot le 14 mars 2013, l'essor des usages normatifs, la comptabilité et les statistiques.
Bien, bonjour. Nous avions commencé la semaine dernière un petit commentaire de l'article L123-12 du Code du commerce qui définit les obligations comptables des commerçants. Et je vous avais annoncé quatre observations relatives à cette disposition. La première, c'est l'obligation juridique de rendre des comptes. La seconde, c'était l'idée que la comptabilité était un mode d'accréditation d'une vérité par l'image. Et nous en étions parvenus donc au troisième remarque au sujet de cet article, c'est que la comptabilité est la première institution moderne à avoir conféré une vérité légale à des nombres. Une fois ces nombres construits, ils acquièrent en effet une force probante qui est sanctionnée, qui est indiquée à l'article 123.23 du Code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour fait de commerce. L'on peut alors oublier la manière dont ces nombres ont été construits et les multiples décisions qualitatives qui ont présidé à cette construction. Vous me direz que c'est la même chose que lorsqu'on rend opposable une loi, un contrat ou un testament, et là aussi qu'on peut oublier ce qui a présidé à la construction de ces textes. Mais ce n'est pas exactement la même chose, car la loi ou le contrat s'exprime dans une langue naturelle et demeure donc ouvert à des types d'interprétations qui sont absolument exclus dans le cas des chiffres. Il existe toutefois un tempérament à cette valeur dogmatique du nombre inscrit dans les comptes, une fois ceux-ci certifiés, c'est l'existence d'une annexe qui, dit le Code, complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat et doit donc permettre d'assurer la fidélité de l'image comptable lorsque celle-ci ne peut résulter de la seule lecture des chiffres. La quatrième observation, et la dernière, c'est que la comptabilité est la première technique à avoir fait de la monnaie un étalon de mesure universelle. Le propre de la monnaie, nous l'avons vu avec Aristote, est de rendre commensurables des choses différentes. Et cette fonction d'unité de mesure est distincte de celle de moyen de paiement, et rien n'impose de confondre ces deux fonctions de la monnaie comme nous le faisons aujourd'hui. Je laisse ici de côté la troisième fonction de la monnaie, celle de réserve de valeur, qui soulève des problèmes différents. Par exemple, dans une économie de troc, il serait possible d'échanger une consultation médicale contre une certaine quantité de saucisses, par exemple, en rapportant l'une et l'autre à une même unité de compte. Cette unité servirait seulement de référence commune et non de moyen d'éteindre l'obligation que seule pourrait opérer la remise des dites saucisses. Donc l'idée de séparer ces deux fonctions monétaire n'a pas disparu et c'est elle que Keynes avait vainement tenté d'imposer à la fin de la guerre en proposant l'instauration d'une monnaie de compte appelée le bancor qui aurait servi de référence monétaire internationale mettant l'économie mondiale à l'abri des manipulations du cours des monnaies nationales et à l'abri aussi en réalité de l'hégémonie du dollar. C'est la raison pour laquelle cette proposition a échoué. Aujourd'hui encore, l'on pourrait imaginer que la France sorte de la zone euro, par exemple, sans qu'il y ait besoin de réformer l'article L123-22 du Code du commerce, selon lequel les documents comptables sont établis en euros et en langue française. Donc il y a cette distinction entre ces deux fonctions. Mais traité comme on le fait depuis 40 ans, la monnaie comme une marchandise, comme les autres, ne peut se faire qu'en occultant sa fonction d'étalon de mesure. Sur un marché digne de ce nom, les poids et mesures qui servent de référence aux échanges ne peuvent être traités comme des choses dans le commerce. L'ignorance de la dimension institutionnelle de la monnaie ne peut donc que saper les bases d'une économie de marché. C'est en tout cas la fonction d'étalon de valeur de la monnaie dont la comptabilité tire parti en l'étendant non seulement à toute espèce de bien réellement existant, mais aussi à l'estimation du degré de confiance qu'on peut faire à un créancier ou plus généralement à l'estimation de la valeur future de certains biens. Autrement dit, le mot « comptable » est trompeur. La comptabilité ne compte pas au sens de dénombrer des choses de même nature, elle évalue. Et elle n'évalue pas seulement ce qui est, mais ce qui peut advenir en utilisant la monnaie comme un moyen de domestiquer l'avenir. Alors c'est donc au Moyen-Âge que nous devons l'invention de cette première forme de gouvernement par les nombres. Cette invention répondait d'abord aux besoins de la direction des entreprises et non à ceux de l'État. L'Antiquité, notamment la Rome antique, recourait bien sûr à des techniques d'enregistrement comptable. Mais c'est durant la période médiévale qu'ont été posées les bases de la comptabilité moderne, avec la tenue de compte de personnes, puis l'invention de la partita doppia, de la comptabilité en partie double, par les marchands des grandes villes italiennes. Selon le grand historien et sociologue allemand Werner Sombart, le capitalisme et la comptabilité en partie double ne peuvent absolument pas être dissociés. Ils se comportent l'un vis-à-vis de l'autre comme la forme et le contenu. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous conscients de ce que c'est qu'une comptabilité en partie double, donc je vais vous donner quelques indications de base. En fait, l'invention de la partie double est allée de pair avec celle d'autres techniques juridiques destinées elles aussi à un grand essor, telles la lettre de change, l'escompte, l'endossement ou encore le trust. Toute technique qui impliquait également de référer les opérations de crédit à un tiers garant et qui témoigne, dès qu'on les analyse de près, des bases institutionnelles sur lesquelles repose l'économie de marché. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce qui permettait au commerce, au monde des marchands, de prendre son essor au-delà des différentes frontières politiques de l'Europe médiévale, c'est une foi commune